Les rois mages. Alors, si vous êtes comme moi, vous connaissez ce texte depuis tout petit, puis vous y êtes tellement habitué que tout ça paraît complètement normal. En tout cas, moi, ça me paraît tout à fait normal. Bon, il y a Gaspard, Melchior, Balthazar. Et quand je prépare un texte, je me penche dessus, puis j'essaie de faire comme si je le découvrais pour la première fois. Et je pense que c'est une bonne approche pour lire un texte biblique qu'on connaît bien. Peut-être, est-ce que Aude, tu voudrais mettre un petit peu de lumière sur les gens? Parce que là, je vois que des ombres, puis ça me fait un peu bizarre de prêcher devant les ombres. Voilà, oui, comme ça, je vous vois un petit peu. Merci. Et ce passage avec les rois mages, en fait, je le trouve vraiment très étonnant. En fait, il est même un petit peu bizarre quand on y pense. Alors, il y a des magiciens qui débarquent chez un roi parce qu'ils ont suivi une étoile qui se comporte comme un être humain. Et les riches magiciens finissent par venir s'agenouiller dans le fumier en offrant des cadeaux super précieux à des prolétaires qui viennent d'avoir un nouveau-né. Mm-hmm. Mathieu, t'es sûr de ton scénario? Je ne sais pas si Hollywood y prendrait un truc comme ça. Mais voilà, ce texte, il fait partie de l'Évangile. Il fait partie de l'Évangile parce que ce qu'il raconte est vrai. Et aussi parce qu'il participe à nous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va regarder ça de plus près. On va regarder un petit peu les différents personnages qu'il y a dans ce texte, dans ce passage. Et puis, je n'ai pas réussi à faire un seul fil rouge. Ça va donner quatre questionnements qui sont finalement très différents les uns des autres. Et parmi ceux-là, vous pourrez, je l'espère, trouver le questionnement, choisir un des quatre questionnements qui vous parle, qui est celui que vous prendrez avec. Ah oui, j'ai pas la petite zapette pour passer les slides. Ça fait rien. Alors, on va commencer par les grands prêtres et les scribes. Les grands prêtres et les scribes qu'il y a dans l'histoire. Alors, peut-être un peu de contexte d'abord. Il y a des mages qui débarquent chez le roi Hérode. Je dis des mages parce que, en fait, c'est pas écrit qu'ils sont rois, comme l'a relevé Marie. Ça, c'est une invention qui n'est pas dans la Bible. Les mages arrivent chez Hérode. Et Hérode, lui, on lui parle d'un roi concurrent, alors il prend ça très au sérieux. Il faut dire, comme il n'y connaît pas grand-chose en trucs religieux, alors oui, il a financé l'agrandissement du temple, mais ça, c'était pour se faire bien voir du peuple. Comme il n'y connaît pas grand-chose en religion, il fait appel aux pros, à ceux qui s'y connaissent. Alors, il fait appel aux grands prêtres. Les grands prêtres, c'est les chefs religieux. Et puis aussi, les scribes. Les scribes, c'est ceux qui savent bien lire et bien écrire. Parce qu'à l'époque, tout le monde ne sait pas lire et écrire. Et Hérode leur demande où doit naître le Messie. Et là, les pros, ils sortent toutes... Ah, merci. Fantastique. Merci beaucoup. Alors, les pros, les chefs religieux, les scribes, ils sortent toute leur théologie, leur grec, leur hébreu, et ils lui disent au verset 5, « À Bethléem, en Judée, n'est-ce pas ? Là qu'il doit naître. » Et pour appuyer ce qu'ils disent, ils citent leur source. « Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, son peuple. « Mon peuple, dit Seigneur. » Alors, qui peut me dire où ça se trouve, ça, dans la Bible ? Ésaïe, bien essayé. Il y a plein de trucs dans Ésaïe, mais ça ne vient pas d'Ésaïe. Ça vient de Michée, exactement. Michée, c'est normal si ça ne vous dit rien, c'est un tout petit livre qui se trouve à la fin de l'Ancien Testament, à la fin de la Bible hébraïque. Et c'est un des 12 petits prophètes. Donc, le premier constat, c'est que les chefs religieux... ils s'y connaissent bien en matière de Bible. Sauf que, moi, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Ces pros de la religion, on leur dit qu'il y a le roi des Juifs qui est né, et ils comprennent bien que c'est le Messie, hein, il n'y en a pas 14 dès qu'ils sont annoncés dans la Bible. Donc là, ils ont bien compris, c'est le Messie qui doit venir. Et du coup, ils en font quoi ? Ils n'en font rien. Il y a le Messie qui vient, bonjour, il y a le Messie qui va venir, il est où? Oui, c'est par là-bas, troisième porte à gauche, allez-y. Moi, je trouve ça choquant. Et puis, si on regarde de plus près le texte de Michée, hein, Michée chapitre 5, les versets 1 à 4, alors on voit qu'il parle effectivement d'un Messie qui doit naître à Bethléem, on voit qu'il dominera son peuple, qu'il conduira le peuple avec la force de l'Éternel, c'est pas rien. Donc ok, là on voit déjà que ça va être un roi balèze, ce Messie. On lit aussi que l'origine familiale de ce Messie, ça remonte à l'éternité. Ah bon ? Que sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre, un peu plus grand que Judas. On verra aussi que ce Messie fera son job avec la force et la majesté de l'Éternel de Dieu. Là, moi, je me dis, quand tu lis ça, et puis que tu entends que ça arrive à côté de chez toi, en principe, tu ne devrais pas trop l'ignorer. Mais eux, ils l'ignorent. Ils l'ignorent et ça pose deux problèmes. D'abord, ça pose un problème pour eux. Ben, ils ne connaîtront pas le Messie s'ils l'ignorent. Pas de bol, ils ont loupé la rencontre avec Dieu. On leur dit qu'il y a le Messie qui est né, ils auraient pu aller le voir aussi, mais ils ne le font pas. Ils loupent la rencontre avec Dieu. Et le deuxième problème, c'est que comme ils ne font rien, ben, ils laissent de la place à l'ennemi. Le méchant roi Hérode a toute la place pour agir. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? Alors, il se peut que parfois, on se comporte un peu comme des grands prêtres. Moi aussi, peut-être. On lit la Bible, et comme on n'est pas forcément aussi spécialiste que les grands prêtres, on peut lire avec des commentaires bibliques qui nous expliquent bien les choses, ou lire les notes de bas de page. On trouve ça intéressant, voilà, il y a Jésus qui nous sauve, il y a Paul qui nous explique ce qui est bien, ce qui est mal, c'est vraiment super, c'est intéressant, et j'en fais rien de plus. Et je passe complètement à côté de ce que Dieu voulait m'apporter aujourd'hui. Alors, quand je lis la Bible, on peut se poser la question, mais ce passage que je viens de lire, qu'est-ce que ça change pour moi? En quoi ça me concerne personnellement, ce que je suis en train de lire là? Et c'est important. Dieu, il peut agir en toi. Soit tu laisses Dieu te bousculer, et puis tu vas à Bethléem dans ton cœur pour le rencontrer. Soit tu ne fais pas, puis tu laisses la place à d'autres choses. Puis parmi les autres choses, ben, il y a l'ennemi, il y a le diable qui va éventuellement s'organiser pour venir à Bethléem dans ton cœur quand l'occasion se présentera. Quand tu lis la Bible, quand tu pries, Dieu, il souhaite te rencontrer. Dieu, il souhaite te rencontrer pour que Dieu et toi, vous puissiez vivre quelque chose ensemble, une vraie rencontre. Et c'est très probable qu'il a quelque chose qu'il aimerait t'apporter. Alors, si tu lis la Bible en fermant ton cœur à Dieu, si tu pries en fermant ton cœur à Dieu, c'est possible de prier en fermant son cœur à Dieu, ben, on risque de rater quelque chose que Dieu il avait prévu pour nous. On risque de laisser la place pour l'ennemi. Donc, ce que m'inspirent ces grands prêtres et ces scribes, c'est « Vivons Dieu et venons à la rencontre du Messie ». Il y a une question de réflexion que j'aimerais laisser. Quand je lis la Bible, est-ce que je laisse Dieu vraiment venir me bousculer ? Ou est-ce que je fais ça par habitude ? Quand je lis la Bible, est-ce que ça a un impact sur ma vie ? Est-ce que ça change quelque chose pour ma vie ? Est-ce que j'ai lu ma Bible cette semaine ? Est-ce que ça m'a amené quelque chose pour ma vie spirituelle, pour ma foi, pour mon comportement? Alors, je dis ça me concerne aussi. Hein. Quand je lis la Bible, il faudrait que je la lise aussi plus intentionnellement et plus en prière, que je laisse Dieu venir me bousculer. Cette question, on reviendra dessus à la fin du message. Et puis il y a Hérode. Alors les sources historiques qu'on a en dehors de la Bible, elles nous apprennent que Hérode était roi en Judée, en Galilée, puis un petit peu au-delà. On sait aussi qu'il n'était pas un descendant du roi David, et donc qu'à cause de ça, il y a certains qui ne le trouvaient pas légitime comme roi. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est écrit que Dieu déclare que le roi d'Israël doit être un descendant de David. On sait aussi que le roi Hérode a fait des grands travaux pour agrandir le temple, pour se faire bien voir du peuple, je l'ai dit, et aussi qu'il a fait fortifier la forteresse de Massada, parce qu'il se sentait moyennement en sécurité. Alors, sachant tout ça, revenons à la Bible. Le roi Hérode, il entend des étrangers qui viennent lui dire qu'ils ont entendu parler d'un nouveau roi des Juifs. Ben forcément, il a la trouille. Lui, ce qu'il entend dans ses oreilles, quand on lui dit qu'il y a un nouveau roi des Juifs, ce qu'il entend dans ses oreilles, c'est qu'il y a un concurrent qui est né. Et parfois, entre ce que me dit l'autre et ce que je veux bien comprendre, il y a une certaine distance. Alors, si j'ai le moindre doute, c'est bien de reformuler. On pourrait redemander au mage. C'est quoi exactement comme roi des Juifs ? Mais Hérode, il le fait pas. Et ce qu'il entend, c'est qu'il y a un concurrent et donc c'est un problème et donc ça lui fait peur. Et donc, il se sent menacé. Et comment est-ce qu'il gère sa peur ? Alors, on l'a vu, d'abord, il va se renseigner auprès des pros. Et bravo, Hérode, ça c'est bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Ensuite, il agit par derrière. Il convoque les mages en secret. Il continue de se renseigner en secret pour pas que les grands prêtres et les scribes se disent que finalement, c'était peut-être important, cette histoire de Messie. Et Hérode, il profite de leur passivité. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait l'hypocrite et il ment. Il dit aux mages, « Oh, revenez me dire quand vous aurez trouvé où il est, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Il manipule les mages. En vrai, ce qu'il veut, c'est tuer le rival, hein, que ça soit clair. On voit dans la suite de l'histoire, quand Hérode va réaliser que les mages ne sont pas revenus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer sa troupe à Bethléem pour tuer tous les enfants jusqu'à 2 ans pour être sûr qu'au moins il a éliminé le petit rival. Cette manière de gérer la peur, ce n'est pas une bonne manière. Ah bon ? Et je trouve que ça peut nous renvoyer à nous-mêmes. Comment est-ce que nous-mêmes, on gère quand il y a un truc qui nous fait peur ou qui nous flanque franchement la trouille ? Parfois, moi aussi, je suis tenté de répondre à ma peur comme un petit enfant. Un petit enfant, il fait quoi ? Il essaye de cacher le problème, il essaye de le faire disparaître discrètement. Oh, j'ai cassé quelque chose. J'espère que personne ne va le remarquer. Hein. Je ne dis rien à personne. Les enfants font ça, Hérode fait ça. Et ce n'est pas une bonne façon de faire. Heureusement, avec Jésus, on a une alternative. Ouf, on parle de Jésus. Quand je vois un truc qui me fait peur, le premier truc que je peux faire, c'est je peux le mettre à la lumière de Dieu. Et Dieu, regarde, ça me fait peur, ça. Le mettre à la lumière de Dieu. Et me poser la question, qu'est-ce que c'est exactement qui me fait peur ? Au fond, c'est quoi qui me fait peur ? Hérode dit la peur parce que à cette époque, quand on remplace un roi, en général, on tue le précédent. Donc, non seulement il a peur de perdre le pouvoir, mais il a peur pour sa vie aussi. Qu'est-ce que c'est exactement qui me fait peur ? La deuxième chose à faire, une fois que j'ai identifié ce qui me fait peur, que j'ai identifié que j'ai peur et que j'ai identifié qu'est-ce qui me fait peur exactement, je peux déposer cette peur à la croix de Jésus. Là, Jésus, il est mort. Il est mort sur la croix pour me libérer de tout ce qui m'empêche de vivre vraiment. Il est mort sur la croix pour que j'aie la vie en abondance, la vie éternelle. Donc ma peur, une fois que je l'ai identifiée, ben je peux aller la clouer sur la croix de Jésus. Il l'attend. Et ensuite, comme j'ai enlevé quelque chose qui était dans mon cœur, c'est comme s'il y a un petit vide là. Alors c'est bien de le remplir. Et là, Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui nous remplit le cœur. Le Saint-Esprit, il porte des fruits, il porte les fruits de la joie, de la paix. Je peux demander à Dieu, demander au Saint-Esprit de me remplir de sa paix, de sa joie. Et il fait ça. Et avec ça, je peux passer de la peur à la paix. Alors le problème initial, il ne disparaît pas, hein, que ça soit clair. Ce n'est pas de la magie pour faire enlever les petits rivaux qui naissent. Non, le problème initial, il ne disparaît pas, mais je suis en paix pour l'affronter. Et je ne suis pas tenté de faire disparaître le problème comme un enfant le ferait. Une question de réflexion que j'aimerais laisser, c'est dans ma vie, quelles sont les choses qui me font peur ? Et comment est-ce que je gère ça d'habitude ? Et qu'est-ce qui m'empêche de les dénoncer, ces peurs à Dieu, de les clouer à la croix de Jésus et de recevoir la paix de Dieu ? Alors, je dis ça en deux mots, mais c'est très important pour mieux vivre, pour laisser Dieu me transformer. Peut-être Peut-être je dirai encore ça dans d'autres prédications, parce que je trouve que c'est important. C'est cette question de réflexion. Est-ce que je peux dénoncer ces peurs à Dieu, les clouer à sa croix et recevoir sa paix? Cette question aussi, on va la reprendre à la fin. Mais regardons. Je crois qu'il y a encore un truc important avec Hérode et les grands prêtres. La première réaction du roi Hérode, elle n'est pas si fausse que ça. Il fait appel aux pros face à une prophétie extraordinaire qui est apportée par des gens très convaincants. Il fait appel aux pros qui s'y connaissent. Et a priori, le premier réflexe des grands prêtres aussi, il n'est pas si faux que ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder si ça correspond à la Bible. Ça aurait pu se passer différemment. Hérode, les grands prêtres, ils auraient pu agir différemment. Et j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse pour évoquer ça. Aujourd'hui, avec Internet, on entend plein d'annonces extraordinaires, notamment sur YouTube, je ne sais pas, la fin du monde, c'est pour bientôt, et ceci, et cela, chaque année, c'est la fin du monde. Et puis, il y a des gens qui se présentent comme des pasteurs et qui enseignent des choses, plein de choses qui ont l'air très vraies, qui ont l'air très importantes, et ça a l'air très convaincant, tout ça. Alors, il y a des très bonnes choses là-dedans, hein, je ne dis pas. Et il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi des choses qui ne sont pas si vraies que ça, qui sont un peu des faux prophètes. Et ce phénomène des faux prophètes, il n'est pas nouveau non plus. Il y en avait il y a 100 ans, il y en avait au Moyen-Âge, il y en avait à l'époque de Jésus, on peut le lire dans le Nouveau Testament, il y en avait à l'époque de l'Ancien Testament. De tout temps, il y a eu des faux prophètes. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont écrit dans le Nouveau Testament, qu'ils aient écrit un évangile, une lettre, quelque chose, tous ceux qui ont écrit dans le Nouveau Testament, tous écrivent de faire attention aux faux prophètes. Donc c'est quelque chose d'important. Donc si je trouve quelque chose d'extraordinaire sur Internet, je peux me poser la question. Attention, qu'est-ce que c'est? Je peux le mettre à l'épreuve de la Bible. Et si vous n'êtes pas sûr de bien connaître la Bible, vous pouvez demander à quelqu'un qui s'y connaît, à un pasteur ou à quelqu'un qui connaît bien sa Bible, ou à Nathalie, ou à Nicolas, ou même à moi peut-être. On est disponible aussi pour regarder ça avec vous, s'il y a quelque chose qui vous pose question, pour trier ce qui est bon, ce qui fait du bien, ce qui édifie, ce qui est à garder, et trier ce qui n'est pas très bon, ce qui est à mettre de côté plutôt. Parce que oui, il y a des faux prophètes sur Internet, il y a des bonnes choses sur Internet, il y a des faux prophètes. Et je pense aussi à ce passage, au début de l'évangile de Luc. On voit que le diable cite la Bible. Ça ne va pas le faire. Hein. Le diable cite la Bible et il le fait en sortant les versets de leur contexte pour faire dire à la Bible quelque chose qu'elle ne dit pas. Donc, il faut regarder la Bible pour mettre à l'épreuve, il faut regarder toute la Bible. Et une question de réflexion avec ça, c'est une question que je me pose. Quelles sont les sources d'enseignement de la foi que je reçois ? Qui c'est qui m'enseigne ce que je crois? Et en complément de qui c'est qui m'enseigne, qui c'est qui peut me conseiller ou me corriger? Je l'ai dit, on trouve des choses très bien sur Internet aussi. Peut-être on peut demander conseil à quelqu'un. Est-ce que tu penses que c'est bien ça? Ou si on a un doute, pas hésiter. Et dans le fond, même ce que moi je vous dis là, ce que je vous apporte, vous pouvez aussi le questionner, vous pouvez aussi le mettre à l'épreuve. Il existe des excellents livres de théologie, vous pouvez aussi demander à Nathalie de vous donner des conseils. Si un enseignement vous paraît étrange, si un enseignement vous paraît curieux, ben soyez curieux. Et ce questionnement, il revient aussi à la fin. Avec tout ça, je n'ai pas encore parlé des mages. Les mages. Alors, comme disait Marie tout à l'heure, les mages, on ne sait pas très bien qui ils sont. Le texte parle de mages, ouais. Alors, des mages, est-ce que c'est des magiciens? Est-ce que c'est des astronomes, parce qu'ils ont vu une étoile? Est-ce que c'est des scientifiques? Est-ce que c'est des vieux sages? On ne sait pas. On sait qu'ils viennent de l'Est, là où le soleil se lève. Mais on ne sait pas combien ils étaient, on ne sait pas s'ils étaient rois, on ne sait même pas s'ils ont voyagé ensemble, dans le fond. Mais on sait qu'ils ont repéré une étoile qu'ils ont correctement interprété un message qui était donné par cette étoile. On sait qu'ils ont fait un long voyage pour venir honorer un nouveau roi qu'ils ne connaissaient pas. On sait qu'ils n'avaient pas lu la Bible, en tout cas l'Ancien Testament qui était disponible. Donc c'était vraiment des étrangers venus d'ailleurs. Et ils cherchent ce roi. Parce que s'ils avaient lu la Bible, ils auraient lu Michée et puis ils sauraient où était, ils sauraient qu'il y a un Messie qui venait à Bethléem. En tout cas. Donc ils cherchent un roi. Et où est-ce qu'on cherche un roi? Quand on cherche un roi, où est-ce que vous iriez chercher un roi? Au château. Mais oui, c'est ce qu'ils font. Ils vont dans la capitale, et puis ils vont au palais royal, et puis ils demandent « Bon alors, il est où ce roi qui est né ?» C'est logique, puisqu'ils ne savent rien. Et les religieux les renseignent correctement. Ils disent des choses correctes. Mais ils ne disent pas tout. Finalement, c'est l'étoile qui va continuer à suivre les mages, à conduire les mages à Bethléem, et qui va leur indiquer le lieu exact. Et quand les mages arrivent enfin vers Jésus, qu'est-ce qu'ils font ? Il l'adore. Alors, il lui demande de les bénir. Il demande à Jésus de les guérir, de leur donner un bon travail, de leur faire grandir leur église. Il demande tout ça, non? Non, ils font pas ça. Ils demandent pas ça. Quand ils arrivent vers Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. Ils s'agenouillent. Ils s'agenouillent dans le fumier de la crèche. Ils se prosternent. C'est pas noté, non. C'est pas noté qu'il y a du fumier dans la crèche. Exactement. On ne sait pas où ils étaient à Bethléem, mais on sait qu'ils étaient encore à Bethléem. Peut-être qu'il a un peu grandi, effectivement. En tout cas, il a certainement moins de 2 ans, puisque Hérode fait tuer les enfants jusqu'à 2 ans. Qu'est-ce qu'ils font les mages quand ils arrivent ? Ils se prosternent. Ils se prosternent et ils adorent. Et après ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lui demandent toujours pas. Ils lui offrent des cadeaux. Comme t'as dit. Pardon ? Il sait pas encore parler. Il demande rien. Ils offrent des cadeaux, et des cadeaux super précieux. Pour Joseph et pour Marie, c'est beaucoup d'argent que ça représente, et peut-être bien que tout cet argent, ça va financer leur exil en Égypte. Parce qu'après la visite des mages, il y a un ange qui viendra dire à la famille de Jésus d'aller se réfugier en Égypte. Et moi, je trouve intéressant, parce que ces mages, c'est les premières personnes dans le Nouveau Testament qui viennent prier Jésus, qui viennent adorer Jésus. Les premières personnes qui viennent adorer Jésus dans le Nouveau Testament, c'est des étrangers exotiques qui connaissent rien à Dieu. Et quand ils rencontrent Jésus pour la première fois, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, leur première attitude, c'est de l'adorer. Puis ils lui font des cadeaux, et puis ensuite ils rentrent chez eux et ils lui ont rien demandé. Et moi, ça me questionne, ça me bouscule. Je me dis, quelle est notre première attitude, nous, quand on vient vers Jésus, quand on s'approche de lui ? Moi, personnellement, ça peut m'arriver des fois de confondre Dieu avec un distributeur. Puis je le prie, puis je lui demande plein de trucs. Je lui demande plein de choses, comme s'il était à mon service. Et là, les mages, ça me rappelle l'essentiel. Quand je viens à Dieu, d'abord adorer Dieu. Lui offrir le cadeau de ma vie. Et éventuellement même, ne rien lui demander. Pourquoi pas ? Juste me tenir dans la présence de Dieu et l'adorer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà prié comme ça, juste vous tenir dans la présence de Dieu et l'adorer, sans rien lui demander. Des fois, c'est compliqué de rien lui demander, même pas lui dire « Viens, remplis mon cœur !» Non, juste je me tiens dans la présence de Dieu, je l'adore. Alors évidemment, ce n'est pas la seule façon de prier. Hein. Il y a beaucoup d'autres façons de prier, demander des choses à Dieu, ce n'est pas faux non plus. Mais voilà, cette adoration pour qui il est, sans rien lui demander, c'est la première qui est présentée dans le Nouveau Testament. Et la question de réflexion que ça me pose, c'est quelle est mon attitude quand je me présente devant Dieu dans la prière ? Quelle est ma première attitude quand je viens vers Jésus ? Est-ce que je l'honore pour qui il est? Est-ce que je peux adorer Dieu sans rien lui demander? On va prendre un temps de prière. Je ne sais pas si Yannick, tu serais d'accord de monter, faire quelques accords. Si, comme les mages, vous souhaitez venir adorer Jésus, je vous invite à vous approcher de la croix. Vous approcher dans votre cœur, ou bien même à vous approcher physiquement, puis à faire comme les mages, à venir s'agenouiller devant cette croix. Genre ici, ça paraît pas mal. Alors tout ça, c'est symbolique, évidemment. Mais c'est l'occasion de dire ces choses à Dieu, avec notre corps, prier avec notre corps aussi, comme les mages. Et ces quatre questionnements, je les ai affichés là. C'est pas pour les prendre tous, hein. C'est des trucs très différents. Regardez celui qui vous parle, celui dont vous vous dites « Ah, cette question, elle me bouscule, cette question, peut-être j'ai besoin de ça. » Et approchez-vous de Dieu juste avec ce point-là, un des quatre. Quand je lis la Bible, est-ce que je laisse Dieu me bousculer? Les choses qui me font peur, est-ce que je peux les dénoncer, les clouer à la croix? Comment je les gère? Et les sources de ma foi, qui m'enseignent ce que je crois? Est-ce que je veux questionner ça? Et puis, mon attitude, quand je viens vers Jésus, c'est quoi ma première attitude? Pendant qu'Annick joue quelques accords, je vous invite à un temps de prière.